Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2010 et c'est l'épisode numéro 31. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel, vous le savez, où on parle de tout ce qui nous intéresse sur le net et dans l'univers merveilleux des gadgets. Et bienvenue sur ce dernier épisode du mois de mars 2010.
J'ai failli te sortir un jingle de suspense là.
T'aurais pu. Vous l'entendez, comme moi, c'est Mathieu Blanco qui est avec nous dans cet épisode. Tu sais que tu m'as fait une frayeur, Mathieu.
Pourquoi ?
Il s'est écoulé 3 semaines entre la dernière revue tech et celle qui est sortie hier.
Une grande absence. Ah ouais, mais tu vois que c'était pas pour rien. Hein.
Oui, non, mais c'est magnifique, oui, tout à fait. Et quoi donc ? Et puis voilà, et puis on va se lancer dans un épisode mirifique grâce à la mauvaise foi personnalisée pro-Apple, ça c'est Mathieu, et à moi qui suis bien évidemment complètement objectif et rationnel. Voilà.
Tu es au centre de tout, tout tourne autour de toi.
Donc on va avoir des sujets, plein de sujets sur Google, pas seulement.
Google aussi, on a Google, on a un petit peu de Facebook et à la fin on va finir par Twitter forcément.
Voilà, et il y aura un petit peu de trucs sur des téléphones et d'autres choses du genre, ça va être sympa. Avant ça tout de même, j'aimerais remercier les quelques personnes qui ont laissé un pourboire sur le site. Comme vous le savez, il y a un petit lien sur la droite du site. Dans la barre du site qui est vert, la couleur de l'argent, qui est notre petit cochon en porcelaine. Donc si vous voulez nous laisser un petit pourboire, c'est là-bas qu'il faut aller et c'est extrêmement apprécié. Et cet épisode, on remercie Charlie, Yann, Jérôme, Florian, Eric et Alexandre. Alexandre d'ailleurs qui m'a spécifiquement demandé de dire qu'il était @alex0680 sur Twitter, donc voilà, merci à lui.
Sur Caramel.
Donc,
t'en as du monde dans ta petite tirelire, hein, tu vas pouvoir une banque, hein, ouais, la Béja Banque, t'as le droit que de déposer.
J'aime bien ce système, oui.
C'est pas mal. Hein.
Donc voilà, merci à tous et Alex0680 pour le coup, si vous voulez aller le suivre, c'est son nom Twitter, merci à lui. Dans la chatroom qui est également présente, Gwil dit le podcast ça rapporte avec un smiley au bout. Et effectivement, je vais bientôt changer d'appartement et m'acheter un château en Touraine.
C'est pas mal.
Ouais, non, mais il faut pas croire comme ça. Hein,
et une nouvelle carte son.
Oui, non, mais peut-être. Donc, autre chose quand même, avant de se lancer dans l'émission, vous avez entendu, vous qui écoutez l'émission en podcast, le petit jingle nowatch.fm au tout début de l'émission, parce que on vous parle depuis un moment de NoWatch, NoWatch.tv, NoWatch.fm, et la section audio de NoWatch a été pré-lancée, en ce sens qu'il y a un certain nombre d'émissions qui sont déjà disponibles, et un site web, et un compte Twitter, et un téléphone qui sonne chez Mathieu. Et
c'est bon, il est éteint. Je viens d'arracher la prise.
Et un compte pas Facebook. De le rallumer, lui. Et tout ça, ouais. Donc on vous en parlera un petit peu plus tard dans l'émission, à la fin. Mais déjà, pour vous expliquer de quoi il s'agit, c'est la réunion de tous les podcasts, enfin, de certains podcasts cool audio. Et vous pouvez aller sur nowatch.fm pour avoir un peu plus d'informations. On vous en dira plus à la fin de l'émission.
Voilà.
Je pense que on va pouvoir se lancer avec notre premier sujet. Ah, Damned. J'avais aussi un truc à dire, mais ça, je le dirai peut-être dans les retours à la fin de l'émission, dans les commentaires, parce que j'ai un truc dont je veux parler spécifiquement par rapport à l'épisode précédent.
Vas-y, on va le faire maintenant. Que j'ai dit.
Non, on le fera à la fin. C'était plutôt des retours, des commentaires et des emails. Donc, tu vois, c'est du suspense, c'est du teasing. Il y a un truc dont il faut parler. Google défiltre la Chine. Ça, c'est le truc dont on parlait.
C'est le gros sujet, ça.
Ouais, c'est vraiment le gros sujet de ces derniers temps. Qu'est-ce que ça veut dire, des filtres? Comme vous le savez, Google, en fait, avait annoncé il y a quoi, un mois, à peu près, un mois et demi, qu'ils allaient...
Ça fait un peu longtemps qu'ils se posent des questions,
Oui, c'est-à-dire que suite à une série d'événements qu'on ne va pas redétailler aujourd'hui, Google avait dit, bon, bah, si c'est comme ça, la Chine filtre en trop et en trop de censure et trop de conditions draconiennes, eh ben, on s'en va. Parce que c'est pas respectueux des droits de l'homme. Donc il y avait une sorte de position morale que certains trouvaient un petit peu discutable. Ils pensaient qu'il y avait aussi des motivations financières.
T'as aussi beaucoup de positions économiques. C'est-à-dire, si Google filtre leurs services, comment ils gagnent de l'argent?
Bah, alors justement, voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, puisqu'il y a tellement de règles
de contrôle
qui vont à l'encontre des droits de l'homme, eh ben, on s'en va de Chine. Et ils ont fini par le faire il y a une petite semaine. Ils ont entièrement défiltré, c'est-à-dire que la Chine exige, pour autoriser les services sur Internet, exige une certaine quantité de filtrage. Donc Google devait enlever les résultats de recherche relatifs à Tiananmen, par exemple, aux activistes des droits de l'homme, aux gens qui étaient contre le régime. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé ce filtrage. Donc en Chine, a priori, tout le monde pouvait voir les résultats qui auraient dû être censurés. Ils l'ont fait par un moyen qui a fait que, évidemment, ils n'avaient pas le choix. La Chine a pu bloquer cet accès. Ils rediriger vers les serveurs de Hong Kong. Et la Chine les a bloqués. Mais ce qui est significatif dans cette histoire, c'est qu'ils l'ont vraiment fait. C'était pas juste des menaces. Et on pensait pas qu'ils iraient au bout de leurs menaces. Et ils l'ont véritablement fait. Et c'est un énorme événement parce que ça veut dire que cette société prend une position politique contre un régime établi. Donc, voilà. Première analyse de Monsieur Blanco.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un geste important comme il est symbolique. C'est-à-dire vraiment une société. Son but c'est de faire de l'argent. Donc à la rigueur, du moment qu'elle peut vendre ses services, si elle doit s'adapter au marché local, elle le fait. Elle le fait, mais là, pour qu'une société tergiverse, se demande, machin, si et ça, puis à un certain moment, claque vraiment la porte en disant « bon, bah, on se barre vraiment, on laisse juste notre recherche et développement, et puis tout le reste, on redirige vers un Google ouvert, enfin Google non censuré », c'est un geste très important. Et puis, ça permet non seulement de voir la vraie position de Google par rapport à ça, d'essayer de savoir pourquoi, est-ce que c'est vraiment moral, est-ce que c'est juste parce que, comme on l'a dit, que... Google, il gagne de l'argent parce que tu accèdes à ses services. Si tu peux accéder à quasiment rien et que dans ce rien, tu n'as que des réponses oui à ce que tu cherches, ça ne va pas être intéressant et ce n'est pas comme ça qu'ils vont faire leur argent.
Oui et non. Ils peuvent avoir de toute façon des services qui vont. Enfin, je veux dire, ils font de l'argent en Chine.
C'est clair.
C'est évident. Mais une chose importante à signaler. C'est
qu'ils ont été suivis en plus.
Oui, alors effectivement, mais avant d'en arriver là, il y a une chose. Tiens, dans la chatroom, Julien précise que ça a été redirigé sur google.hongkong et il dit que certains trucs sont accessibles sur Google Hong Kong. Mais aujourd'hui, le trafic vers google.hk n'est plus accessible depuis la Chine. Donc si vous allez sur google.hongkong.hk et
vous allez
y avez des résultats, ça ne veut pas dire que les gens en Chine peuvent y accéder.
Mais c'est vrai que c'est surtout intéressant la manière dont l'État chinois réagit.
Oui, tout à fait, ouais. Il y a eu une... Bah, vas-y.
Bah, c'est une réaction, comment dire. C'est vrai qu'on, je sais pas, par rapport à l'État chinois, on peut se dire, bon, bah, l'État chinois, tant mieux, hein. Il y a Google qui se barre. Voilà, ça leur fait, ils ont plus besoin de censurer, vu qu'il y a plus rien à censurer. Ils ont juste besoin de couper un accès ou une redirection, puis c'est réglé. Mais la réaction de Google de l'État chinois par rapport à ça, était un petit peu surprenante dans le sens où on sent que c'est important aussi pour eux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont...
Tu fais référence à la liste des règles qu'ils ont envoyées à leurs médias. Ouais. Bah, ça, je pense que, tu sais, c'est une réaction standard du gouvernement chinois. Quand il y a une histoire, enfin, quand je dis une histoire, c'est-à-dire une information qu'ils veulent contrôler, ils envoient des directives à leurs médias. Là, on en parle parce que c'est Google et que ça nous concerne, mais ils font ça tout le temps. Certaines personnes racontaient, par exemple, que CNN, par exemple, est accessible en Chine, mais c'est un petit peu décalé. Et quand ils abordent un sujet qui ne plaît pas au gouvernement chinois, l'écran devient noir. C'est-à-dire que vous pouvez regarder CNN, et puis tout à coup, pendant 2 minutes, vous avez l'écran noir. Et puis quand c'est terminé, le sujet qui leur déplaisait, ça revient. Et ils ont des instructions du type, vous ne pouvez pas citer, à leurs médias, vous ne pouvez pas citer d'autres sources que les sources officielles du gouvernement, etc., etc., pour contrôler cette information. La chose que je voulais dire à propos de Google, c'est que beaucoup de gens questionnent la bonne foi de Google dans cette... Enfin, beaucoup de gens, non. D'une manière générale, c'est quand même assez bien reçu. On se doute qu'il y a peut-être une petite composante qui va leur donner une bonne image, donc c'est aussi pour ça qu'ils le font, mais... La plupart des gens comprennent qu'il y a un vrai enjeu qu'ils sont en train d'abandonner, un vrai enjeu financier qu'ils sont en train d'abandonner.
Mais la chose sur 1 milliard de personnes et le centaines de millions qui ont Internet en Chine, c'est un sacré marché. Hein.
Oui, non, mais c'est évident, oui, tout à fait. Et donc, le truc auquel je voulais en venir et que j'arrive pas à placer depuis tout à l'heure parce que je me perds dans mes
tu vas y arriver.
C'est que une chose dont il faut se rappeler, c'est que Google, c'est pas une entité qui pense d'une seule voix. Il y a, comme dans toutes les sociétés, différents individus. Et l'un des individus à la tête de Google, c'est Sergey Brin, qui a vécu dans le bloc de l'Est pendant son enfance et qui a un souvenir du communisme et de la dictature extrêmement vif. Donc, lui n'a jamais été à l'aise avec cette décision commerciale d'aller en Chine. Et il a toujours poussé pour le fait de... Enfin, il n'a jamais été convaincu. Et là, il s'est dit, avec les récents événements, bon, ben, c'est bon, c'est maintenant, je suis... c'est la goutte d'eau. Donc, je ne veux pas...
C'est l'opportunité pour pas cautionner ce genre de problème, quoi.
Exactement.
Et ce genre d'action.
Exactement. Donc,
et ce qui est bien, c'est que par rapport à ça, tu peux voir que les autres sociétés qui réagissent, comment ? Parce que quand Google se positionne aussi fermement que de claquer la porte, c'est très intéressant de voir les réactions d'autres sociétés dans le domaine de la recherche ou ailleurs, ou dans le domaine de l'Internet.
Tout à fait. C'est-à-dire que
Microsoft qui dit « bah nous, on reste ».
Ouais, exactement.
quitte à censurer ou à donner des informations, on reste. Ouais. Je pense que le marché est vraiment trop important pour une société comme Microsoft et d'autres sociétés qui sont restées et d'autres qui sont parties comme...
Avant de parler de l'autre qui est parti, je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable pendant 2 secondes. Parce que l'une des... Si on veut être un petit peu objectif, enfin pas objectif, mais prendre tous les côtés de l'argumentation, Microsoft dit « nous... On veut changer les choses de l'intérieur, donc il faut être présent pour pouvoir donner une opportunité aux gens de changer petit à petit. Parce que imaginons un instant que toutes les sociétés du monde, la majorité des sociétés du monde, se retirent de Chine. Et bien ça plonge la Chine dans une sorte de Moyen-Âge médiatique et voire même technologique qui fait qu'ils seront possiblement encore plus oppressés. Donc, en tout cas, oppressé par manque d'informations, manque de connaissances, etc. Donc, l'argumentation selon laquelle on veut changer les choses de l'intérieur n'est pas totalement risible. C'est-à-dire que souvent, il est facile de se dire « Ah oui, c'est ça, Microsoft, ils font genre « nous, on reste, c'est pas étonnant, ils sont là pour faire de l'argent, machin. » Certainement, ils sont là pour faire de l'argent, mais...
Toutes les sociétés sont là pour faire de l'argent.
Ouais. Mais cet argument, enfin, t'es d'accord, il a une raison d'être, quoi.
Il a une raison d'être, oui. Ça, c'est clair.
Et l'autre argument qu'il faut aussi comprendre, à mon sens, ou qu'il faut énoncer pour avoir une vue globale de la chose, c'est que la Chine dit « Vous êtes gentil chez Google, mais vous n'êtes pas là pour nous dire comment on gère notre pays. »
Et c'est pas faux non plus, parce qu'un milliard de personnes à gérer...
Ouais, mais même, c'est-à-dire que, imagine c'est complexe. Bon, en même temps, ils sont juste partis. Ils ont juste dit, nous, on ne veut pas faire de business dans ce pays. Ce qui est pas non plus, ils ont pas lancé une attaque nucléaire, quoi. Mais, ou donner de, tu vois, de
ou lancer. Ou une attaque informatique qui bloquerait l'un des géants de l'Internet.
Ils ont juste dit, nous, on vient pas. Mais il n'empêche, c'est une manière de dire, nous sommes contre votre culture, d'une certaine manière, votre manière de gérer le gouvernement, votre manière de, votre politique. Et, est-ce vraiment le rôle d'une société de dire ce genre de choses ? Moi, personnellement, pour que ma position soit très claire, je pense que c'est tout à fait courageux de la part de Google et que c'est une bonne chose. Mais la question mérite d'être posée. Est-ce que c'est véritablement le rôle de Google de faire ça, quoi ?
Là, j'avoue, je suis un peu collé. Non, non, mais c'est une très bonne question. Mais est-ce que c'est à Google de le faire comme ça ou est-ce que Google a totalement le droit de dire, bah moi, ça m'intéresse pas dans ces conditions, alors que Google nous crie à chaque petite bourde ou à chaque recherche un petit peu bizarre qu'il ne trie rien, il ne filtre rien, que Google prend Internet tel qu'il est. Que tout d'un coup, pour un pays, il commence à filtrer, à retirer, dans ce cas-là, ça peut être aussi bien de dire oui, on fait ça pour changer les choses de l'intérieur. Mais s'il commence à dire ça, on fait ça pour changer les choses de l'intérieur en Chine, puis en France avec Adopi. Oui, tiens, après, on le fait là-bas aussi. Oui, mais on va changer les choses de l'intérieur, vous en faites pas.
Oui, c'est pas faux. C'est une porte ouverte
Porte ouverte, en fait.
Okay.
Parce qu'à partir de là, n'importe quel pays peut dire bon bah ce que tu fais en Chine, tu le fais aussi chez moi. Hein. Tu changeras aussi les choses de l'intérieur plus tard.
Ouais. C'est pas faux. Et d'ailleurs, comme tu y faisais allusion, d'autres sociétés ont, une société a pris enchaîné.
On va peut-être la présenter parce que c'est vrai qu'en France, en Europe, elle est pas très connue. Il s'agit de GoDaddy qui risque de débarquer en France. Est-ce que Jérôme nous dit souvent c'est le plus gros ou c'est l'un des plus gros ?
L'un des plus gros.
C'est l'un des plus gros registrar de nom de domaine, c'est-à-dire quand on veut un nom de domaine, machin.com, lrdv.fr, frenchpin.com, voilà, quand on veut son nom de domaine sur Internet, GoDaddy, c'est l'une des plus grosses sociétés qui gère des noms de domaine sur Internet et de l'hébergement, ils font plein de trucs. Donc c'est l'un des plus gros, et c'est ce qui sert aux gens pour faire leur site Internet, pour avoir un espace sur le web. Et donc eux aussi, ils ont dit, vu que la Chine a modifié ses conditions d'attribution de nom de domaine, c'est-à-dire si t'es en France, tu peux avoir un .fr, mathieublanco.fr, si j'étais en Chine, j'aurais mathieublanco.cn, .china. Eh bien, la Chine a modifié ses conditions d'accès au .china, et à partir de là, GoDaddy a emboîté le pas à Google, s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment de dire, nous aussi, on arrête l'enregistrement de nom de domaine en .china, parce que les nouvelles conditions sont, visiblement trop dur et un peu trop étrange
pour l'œil de GoDaddy. Ouais, pour préciser, c'est-à-dire que la Chine demande une photo de la personne qui enregistre un domaine en .chine, enfin photo, nom, numéro de sécurité sociale, adresse, enfin une quantité d'informations dont GoDaddy estimait qu'elle n'était pas raisonnable et qu'elle devenait trop dangereuse par rapport à la vie privée.
Ils ont ta photo, ils ont ton numéro de sécu, ils ont tout. Tu ouvres un blog et tu places une petite phrase, malheureusement, qui ne va pas au gouvernement. T'es vite retrouvé, il n'y a pas besoin de chercher l'IP ou demander au fournisseur. Ils ont trouvé l'astuce, ils y vont direct.
C'est sûr. Donc voilà, alors c'est un petit peu opportuniste d'une certaine manière. Disons que l'annonce arrive, ça leur fait un bon coup de pub. Mais en même temps, c'est la même question qu'avec Google, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une motivation ? Bon, disons que pour le cas de GoDaddy, il pourrait souffrir de conséquences assez dramatiques au niveau, au niveau image. C'est-à-dire que si on se rend compte, sans qu'il ne l'ait dit, que pour enregistrer certains domaines, il donne toutes ces informations sur les personnes qui font affaire avec eux, évidemment, ça fait un peu mal à l'image, quoi. Mais bon, il n'empêche, la décision est là.
C'est opportuniste, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est courageux et c'est bien à côté que des sociétés... je sais pas si on peut appeler ça une genre de collaboration ou mais c'est voilà. C'est courageux. Moi je vais pas jusqu'à défendre ou dire que celui qui reste c'est une mauvaise société, mais c'est vrai que avoir un minimum je sais pas, un minimum de morale ou de, comment dire, tu respectes simplement les droits de l'homme dans une société sans vraiment indiquer que t'es contre ou pour tel ou tel type de gouvernement. Ouais. C'est pas mal. Après, à voir pour la suite, hein, comment ça va.
Anthony Narto dans la chatroom nous dit: non mais vous êtes marrant, vous, la Chine a été un pays sous-développé pendant longtemps et nous a fourni à peu près tout. Aujourd'hui qu'ils sortent la tête de l'eau, une bande d'Européens et d'Américains se ramène en disant: ne polluez pas et respectez les droits de l'homme. Tu sais, je pense pas que les choses soient aussi simples que ça. Ouais. Le problème c'est que si ce genre d'argument est valide, tu peux tout excuser à tout le monde. La question de la pollution est autre. Effectivement, il y a quelque chose d'impératif au niveau industriel qui fait que le développement vient plus tard en Chine et c'est pas non plus super facile de leur demander du jour au lendemain de ne pas polluer alors qu'ils doivent passer par des stades de développement économique et industriel qui nécessitent peut-être de la pollution. La
question. Et surtout, il y a 1 milliard de personnes. Il y en a qui se rendent pas compte, hein.
Non, mais c'est sûr.
C'est aussi ça, tu gères pas 60 millions de personnes comme 1 milliard.
Non, c'est certain. Impossible. Ouais. Donc, c'est effectivement quelque chose.
C'est un gros problème, c'est très complexe parce que ça, t'as tout de suite des connexions politiques et des connexions aux droits de l'homme et des connexions, c'est pas qu'un problème. Tu vois, Google, il a vraiment, il a un petit peu allumé un feu, quoi. Il a juste craqué son allumette, mais ça a allumé plein de trucs qui étaient un petit peu en suspens. On savait que c'était pas bien, mais c'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Ouais. Parce que ça soulève plein de choses.
Ouais. Bon, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais effectivement, je pense que, au final, ça revient à une question d'opinion et il semble que le consensus soit: c'est pas plus mal d'avoir une société qui a un tout petit peu un compas moral, et si plus de sociétés avaient ce compas moral, c'est pas forcément leur cas, et c'est le genre de situation où il est difficile de faire des généralités, de dire il faut toujours que les sociétés fassent comme ci ou comme ça, mais dans ce cas précis, je pense que la plupart des gens sont d'accord sur le fait que c'est une bonne chose. Donc,
Puis on va voir s'ils le font vraiment et qu'ils arrêtent de fabriquer leur Nexus One là-bas.
Ah bah, ça a des conséquences financières tout de suite, parce que la Chine a annoncé immédiatement que les téléphones basés sur le système Android de Google étaient arrêtés, enfin les téléphones destinés à la vente en Chine, hein, bien sûr, pas à l'étranger, les projets étaient annulés. Donc il y a un marché de plus d'un milliard de personnes sur lequel ils font une croix immédiatement, quoi. Donc ok,
passons problème complexe.
À autre chose, tout à fait, mais ne quittons pas Google, parlons de la Google TV. De quoi diable s'agit-il ?
Google dans ta télé. Recherche, bonne émission, aucune réponse. Ah. Intéressant ce système.
Tout à fait. Alors c'est quoi la Google TV ? T'as lu
ce qui paraît, ils se sont fait un petit café une fois. T'avais Intel, Sony et Google. Ils se sont dit: tiens, si on mélangeait les trois. Et ce qui paraît, on va avoir soit une télévision avec à l'intérieur Google, ou soit une box. Comme une box, une Freebox TV, une Neufbox télé, enfin une box que tu branches à ta télé, où tu aurais accès à un Android, une version spéciale du système de Google qu'on retrouve déjà dans les téléphones, bientôt dans leurs tablettes, bientôt dans la voiture, la ROV 350 en Chine justement. Donc leur système qui s'adapte à tout, ils se sont dit: tiens, on va le mettre dans une box et on va permettre aux gens de la relier à leur télé, et ils vont pouvoir regarder la télé, déjà, c'est pas mal. Enregistrer, ils vont pouvoir accéder à tout le contenu d'Internet depuis une télécommande. Donc, ça semble être un stade assez avancé parce qu'ils sont déjà en train de dire: on a Intel, on a Sony, on a Logitech qui fabriquera le périphérique que tu auras
en main.
Donc, ça a l'air quand même d'être un stade avancé, tu vois. C'est pas un concept jeté en l'air, juste Google tout seul. Ah ouais, tiens, on va essayer de le mettre dans une télé. Donc voilà, je sais pas si tu as plus d'informations.
Moi, disons que l'information, effectivement, c'est une sorte de box qui, finalement, n'est pas si différente de la Freebox ou d'une autre box qu'on a déjà. Il faut savoir que c'est une situation un petit peu particulière en France parce qu'on a eu ce type d'offre avec des sortes de box reliées à la télé très tôt. Poussé par Free, en fait, l'industrie française a pris de l'avance sur les autres dans ce domaine-là. Mais donc pour nous, c'est peut-être pas, on comprend pas forcément l'utilité, mais il y a d'autres pays.
Il y a des pays, il faut savoir, où ça existe pas. Hein.
Voilà, exactement. La télé par IP, comme c'est le cas avec votre box, ça n'existe pas vraiment. Et
il n'y a même pas besoin d'aller loin, hein, juste dans les pays européens. Tu regardes quels sont les pays qui proposent une offre Internet très haut débit avec un boîtier qui fait Wi-Fi, tout ce que tu veux, Switch, et un autre boîtier qui se connecte soit en CPL via la prise électrique ou directement par du Wi-Fi MIMO. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
C'est sûr.
Il n'y en a pas beaucoup et ça ne coûte pas 30 euros par mois.
Et alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est que si effectivement les choses se passent bien et cette box, cette Google Box ou ce Google TV arrive un petit peu partout, c'est que ils vont, eux, contrairement aux autres constructeurs comme les fournisseurs d'accès Internet français qui ont... Les fournisseurs d'Internet français sont en relation avec les chaînes de télévision. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à amener la diffusion de programmes sur Internet sur votre télé. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir sur la Freebox YouTube ou d'autres
trucs. Bah, disons que tu l'as déjà, mais c'est tellement nul, chiant et lent à utiliser que tu ne sais même pas que ça existe.
Bah, exactement.
C'est-à-dire qu'il y a Dailymotion sur les 9 Box TV depuis, depuis quoi ? Depuis 3 ans depuis 3 ans. Depuis 3 ans, tu peux accéder à des... Mais c'est nul, c'est nul.
Et tu vois, c'est sur la 9 Box, tu l'as peut-être, mais d'une certaine manière. Sur la Freebox, pas forcément.
Tu l'as
d'une
autre manière, et puis t'as pas toutes les vidéos parce qu'elles sont à un quin. T'as qu'une petite partie du catalogue. Enfin, c'est vraiment... Et en plus, c'est d'une lenteur, c'est mal optimisé. Enfin voilà, donc, tu sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas un... Comment dire, il n'y a pas un vrai système d'exploitation. Il n'y a généralement pas un vrai processeur armé Il n'y a pas un vrai ordinateur. Alors que là, justement, ils veulent mettre un véritable ordinateur avec un vrai système optimisé pour ça, quoi.
Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait que... Avec la marque Google dessus, ça va donner aux gens comme nous, précisément, là ça devient une réflexion très personnelle, mais aux gens qui créent du contenu sur Internet, que ce soit nowatch.fm ou nowatch.tv ou les autres, ça va donner une opportunité formidable si ça se répand. Parce que imaginez, là, vous êtes déjà en train d'écouter en allant sur le site, en vous abonnant sur iTunes, puis en téléchargeant machin sur votre podcast.
Et si tu y accèdes depuis ta télé ?
Voilà, mais imagine, tu es sur ta télé, tu cliques sur un bouton et tout à coup, tu as Patrick et Mathieu. Bon, moi, je fais plutôt de l'audio, mais Mathieu avec la revue Tech ou les Scuds ou Geeky.
Je ne sais pas si sur ce point précis, je pense que tu as déjà pu tester une Apple TV, mais sur ce point précis de la gestion des podcasts ou de l'accès à YouTube, l'Apple TV est vraiment géniale. C'est le seul point positif de l'Apple TV. Mais ce soit au niveau de l'intégration des podcasts, de la lecture en streaming ou de l'accès à YouTube, l'Apple TV est vraiment merveilleuse. Et quand tu vois fonctionner, malgré que l'Apple TV, tout le reste, soit une bouse, si tu te dis, mince, ils arrivent à sortir un truc comme ça, il y a Google qui nous fait on va faire un truc open source, on va mettre une box avec un vrai ordinateur, avec un système Android, avec un accès à YouTube, un accès à tout Internet depuis ta télévision. Effectivement, ça va permettre à des gens de se dire dans son canapé, tiens, je vais sur la... Ils vont même pas savoir qu'ils sont sur YouTube, ils vont voir chaîne sport, chaîne high-tech, ils vont voir plein de vidéos, ils vont fouiller, ils vont voir celles qui sont bien notées, les nouveautés, machin. Puis ça va permettre...
Pardon, fini.
Sans prix. C'était un exemple, c'est le dernier exemple que j'ai vu, que je l'ai monté hier dans la revue Tech. C'est même si je n'aime pas ce genre de musique, la chanteuse Lady Gaga qui a atteint le milliard de visionnements sur YouTube avec des clips qui ont été censurés à la télé parce qu'ils étaient jugés trop sexy ou trop machin.
Ouais, tout à fait.
Le milliard.
C'est-à-dire que c'est vraiment pas rien. Alors imaginez la même chose sur la télé, sur les centaines de millions de télés, les milliards de télés qu'il y a dans le monde. Bon, il faudra en vendre des Google Box d'ici là, mais c'est ce rapprochement mythique entre l'arrivée d'Internet sur les télés qui, là, pour le coup, si Internet est déjà en train d'influencer la manière dont la télé fonctionne et l'industrie de la télé, le jour où ça c'est vraiment répandu, là, ça va être ils vont passer la deuxième, la troisième et la quatrième, et l'industrie de la télévision est transformée, quoi.
Voilà, et c'est une opportunité de publicité énorme pour Google parce que ça leur permettrait de rentabiliser, mais complètement YouTube, parce que ça deviendrait une genre de chaîne de télévision gratuite à la demande, avec, on en viendra, je crois qu'on en reparlera dans les news et les rumeurs, avec une quantité phénoménale de nouvelles vidéos qui arrivent chaque minute.
Ouais, bah on peut en parler tout de suite. Les derniers chiffres de YouTube annoncent qu'il y a sur leur site 24 heures de vidéos uploadé sur YouTube chaque minute. Chaque minute. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est
monstrueux.
Chaque minute, il y a 24 heures de vidéos qui sont mises sur YouTube. Donc bon, en plus, sur ces 24 heures, il y en a 23 et demi qui sont des chats qui font du skateboard et des chiens qui se cassent la gueule en essayant d'attraper un oiseau. Mais quand même, je veux dire,
c'est du papa qui bouffe le flambi de sa gamine. Ouais.
Voilà, c'est quand même une transformation de la société, quoi.
Ouais.
Donc bon. Il y a eu quelques commentaires assez comiques dans la chatroom sur certaines choses, genre TF1 et No Watch sur la télé en même temps qui provoquent une anomalie quantique et ce genre de choses. Bon, il fallait être sur la chatroom, vous pourrez y être la prochaine fois si vous le désirez.
Mais c'est vrai que c'est une très grosse opportunité pour YouTube de se placer directement sur la télécommande et de commencer de vraiment faire de la publicité vidéo ciblée. Ouais. Parce que c'est ça leur but.
Oui, bien sûr. On parle de grands rêves utopistes sur l'arrivée d'Internet et de nos petits contenus.
C'est vraiment pas bête.
Sur la télé, mais le vrai but, évidemment, c'est l'utilisation d'Internet aussi facilité que possible dans tous les domaines possibles, qui est le credo de Google. Pourquoi ? Pour pouvoir monétiser avec de la pub.
Parce que imagine, même moi je serais heureux, je serais le premier à l'acheter. Imagine que t'achètes une boîte, tu la branches à ta télé et que quand il y a des coupures pub, les publicités soient ciblées. Tu sais que t'as une coupure pub parce que voilà, l'émission elle a coûté je sais pas combien, donc t'es content de l'avoir gratuitement en contrepartie de la pub. Et cette pub, elle est ciblée. Vu que ta Google Box, elle te connaît, elle
au lieu de te faire une pub pour
sur la lessive, elle va me faire une pub sur un truc qui m'intéresse parce qu'elle connaît mes goûts.
Ah ouais.
Et là, je veux dire, ça peut plaire à qui ça peut pas plaire. T'as une publicité qui t'intéresse.
Non, c'est vrai, ouais. Une publicité qui t'intéresse, c'est quelque chose qui peut, en tout cas, pas forcément plaire, mais en tout cas, passer beaucoup mieux que les trois quarts d'heure de pub qu'on a aujourd'hui pour chaque minute d'émission, quoi.
C'est clair.
Bon, autre chose. Parlons de Facebook et de maladies sexuellement transmissibles. Bah écoute, c'est bien
ça
cas.
Peut pas être le titre de l'émission, mais là on est bien parti.
Non, mais j'ai pas dit que Facebook était une maladie sexuellement transmissible. Encore que la question pourrait
Encore
se poser.
Que.
Mais...
Ah, celle-là, elle est énorme. Vas-y, je t'en prie.
Alors, en fait, il y a une étude. Alors, attends, que je regarde le lien quand même pour pas dire de bêtises, mais il y a une étude anglaise
Facebook a contribué
à une augmentation des cas de syphilis en Angleterre. C'est quand même...
C'est trois villes en Angleterre qui sont un peu plus connectées que les autres.
Ouais.
Et en gros, il y a un chercheur qui a fait la déduction, après de nombreuses recherches, que les gens, depuis l'apparition de Facebook, étaient plus aptes à se rencontrer de manière ponctuelle, le soir, etc., pour avoir des relations et que les cas de syphilis étaient en augmentation à cause de ça.
Exactement. Voilà. Alors il a fait une étude sur les trois villes, les trois villes.
Et si je peux me permettre, pour résumer ça en deux mots, Facebook Connect. Pour ceux qui comprennent.
Elle est très bonne. Ou alors comme le dit Anthony Narto, qui est décidément qui a le feu dans la chatroom. Il dit ah pardon, c'était notre Thierry, excusez-moi. Il dit prochaine émission de la rue, j'ai attrapé la ch'touille sur Facebook. J'imagine très bien moi. Ou Anthony Narto pour le coup qui se rattrape, qui dit Facebook connecting people. Mais tu sais, au-delà de la plaisanterie, comme je disais, il a fait l'étude sur Sunderland, Durham et Teesside. Mmh. Ou Teesside en Angleterre. tu sais, au-delà de la plaisanterie, c'est marrant, etc. Mais
enfin, c'est marrant tant que tu l'as pas chopé, quoi.
Non, non, mais disons que bon, la news est fait sourire, c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est quand même un formidable argument contre ceux qui disent
oui,
que
qui
le
disent
net
que c'est...
isole.
Ouais, voilà. Bah non. Bah grâce au net, on.
Mais, grâce au net, t'attrapes la ch'touille. Non, mais c'est vrai. C'est bon, en plus, la syphilis, c'est pas marrant, quoi.
Et je vois, mais... et je vois bien la discussion de comptoir. Ah ben non, quand t'es sur Internet, tu te renfermes sur... Mais non, regarde, il y a plein de gens qui chopent la ch'touille. C'est des chercheurs qui l'ont dit.
Ah non, mais bon, pour être sérieux deux secondes, c'est vrai que c'est une formidable preuve que c'est un moyen d'établir des connexions et que ça a des répercussions sur la vie réelle et la vie en dehors d'Internet. Quoi. Ça permet aux gens de se retrouver, de se trouver par centre d'intérêt. Enfin, j'arrive pas à dire les choses sérieusement. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça peut être extrapolé sur plein d'autres choses. Tu te retrouves par centre d'intérêt, tu retrouves des gens que t'aimes bien, avec lesquels t'as des affinités. Ne serait-ce que, pensons... Bon, je sens que les gens vont faire des plaisanteries douteuses, mais pensons à ce qui se passe avec No Watch. On s'est tous retrouvés entre toi, moi, Cédric, Jérôme, tous les autres... finalement par le net, par cette passion commune.
Et ça,
et
c'est
aujourd'hui
un truc
on
les...
est plutôt potes, quoi. C'est, bon, c'est moi, ça. Je t'adore pas trop, mais disons que tu vois, tant qu'on reste loin, ça va. Mais
tu veux pas te connecter, d'accord. J'ai compris. Non, mais c'est vrai. Et les gens qui nous écoutent peuvent se poser la question. Surtout ceux que ça fait plus de 2 ans ou 3 ans qu'ils sont sur Internet, sur Twitter et sur Facebook. Faites dans votre tête une petite liste des personnes avec qui vous êtes en contact un petit peu permanent et regardez la quantité de personnes où c'est soit grâce ou par Internet.
Ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et ensuite, regardez votre voisin de bureau qui, lui, n'est pas jamais sur Internet et le nombre de soirs où il rentre chez lui tout seul en espérant qu'il avait des...
En se disant,
ah, si seulement j'avais des amis. Bon, on est un petit peu en train de changer le tableau, là. Bon,
si seulement je pouvais en changer.
Ben voilà, tu vas sur Facebook et tu trouves de nouveaux amis.
Un ami.
Bon, ok. En tout cas, on prêche des convaincus. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent savent
bien.
Non,
mais c'est très intéressant parce que s'ils commencent à se dire, mince, c'est un peu un sujet, on commence à choper des maladies parce que les gens, ils se rencontrent. Ouais, bon, c'est vraiment, faut savoir ce qu'on veut, quoi. Faut aussi se comporter un peu bien. Mais c'est très intéressant. Puis effectivement, les gens qui nous écoutent en live ou dans le podcast, faites le test. Regardez parmi vos amis combien vous en avez que vous les avez trouvés grâce à Internet ou retrouvés grâce à Internet ou ceux avec qui vous restez en contact par Internet. Et là ça peut même aller dans la famille et plein de choses.
Et moi, je pense que la leçon à tirer de cette histoire, bon, il faut en rire d'une part, et puis il faut aussi se dire,
te protéger,
les gars. Mais exactement, qu'est-ce qu'il foutait ? Enfin, je sais pas, vous rencontrez une nana par Facebook, déjà, vous la voyez le premier soir.
S'il y a quelqu'un de chez, Durex qui nous écoute, c'est le moment de claquer un gros budget de pub sur
exactement, Facebook. Exactement. Donc, leçon d'utilité publique pour tous les utilisateurs et les auditeurs, mettez des capotes.
Voilà tout simplement.
Premier téléphone 4G bientôt disponible. Wouhou ! Bon, pas ici, hein, c'est aux États-Unis. Le premier téléphone 4G.
Je réponds juste dans la chatroom, il y a Markor qui nous indique qu'il y a quand même une très grande partie de l'économie du net basée sur les rencontres, et c'est vrai. Il faut savoir que je pourrais te filer un lien où c'est une superbe image hyper longue où tu as toutes les statistiques bien joliment présentées. Il faut savoir que le marché de la rencontre sur le net génère plus de revenus que le marché de la pornographie.
Oui, 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 c'est.
Très peu de sites. Alors qu'il y a 80% de sites internet pour adultes sur internet, et bien, avec quelques sites de rencontres, ça génère plus de profits.
Eh, franchement, je ne sais pas pourquoi on s'emmerde à faire des sites de podcast. Hein. Je crois que, franchement. Bon, bref. Téléphone 4G, alors c'est quoi ? Bon, d'abord, Mathieu, toi qui es un grand connaisseur de la technologie, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer exactement ce que c'est que la 4G.
Oh ben moi, je sais pas, tu sais que j'ai un Nokia tout pourri, là. La 4G, c'est la quatrième génération de réseau de téléphonie mobile, ce qui fait qu'avec la 3G, ça va vite, avec la 4G, ça va très 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 vite. Bon. Voilà, à condition d'avoir l'antenne, le téléphone, d'avoir un gant MAPA qui te protège de la chaleur. Enfin, plein de choses sympas.
Bon, mais c'est en train d'être mis en place ou on en est où, nous, enfin, en France, avec la 4G?
Alors, en France, on essaye de mettre en place la 3G avec difficulté. Alors, pour le moment, on est à entre 80 et 85% du territoire français qui est couvert par la 3G, mais c'est une 3G, un petit peu limitée, c'est-à-dire, bon, de moins en moins, les opérateurs font sauter les brides, mais c'est vrai qu'on se rend compte que, surtout avec l'iPhone, on voit que le réseau des opérateurs est un peu mis à mal, parfois, et la quatrième génération des réseaux, je crois qu'il y a déjà au Japon. Si je me trompe pas, s'il y a quelqu'un qui peut nous confirmer. Et donc, on est censé avoir la 4G. Vu les perspectives, normalement, c'était quoi? C'était 2012, 2013, mais vu les perspectives, faut pas trop compter dessus, peut-être avant 2014 ou 2015. Ou alors à vraiment dans les très grandes villes. Mais pour espérer une couverture étendue au niveau national, là, non, il va falloir aller se coucher ou changer de pays. Hein.
Bon, alors évidemment, vous l'aurez compris, la 4G, le premier téléphone Android 4G a été annoncé aux États-Unis sur le réseau Sprint, qui n'est pas le plus gros réseau du monde, enfin des États-Unis, et qui en plus n'a vraiment la 4G que dans quelques villes, donc c'est le tout début. Mais la 4G est censée donner sur téléphone le même type de débit que la DSL à la maison. Donc, c'est vraiment...
Mais quel type d'ADSL ?
Non, bien sûr, mais enfin, disons que d'une manière générale, la DSL, c'est quand même différent de la 3G qu'on a sur nos téléphones.
C'est sûr.
Donc.
Et aussi un truc intéressant, c'est qu'avec la 4G, le téléphone pourra non seulement échanger de la voix, mais aussi de la data en même temps.
Bah, certains réseaux 3G le font. Aux États-Unis, par exemple, c'est l'un des arguments de vente de AT&T. Mais
heureusement qu'ils ont celui-là. Il faudrait déjà qu'ils arrivent à passer de la voix ou de la data correctement.
C'est sûr. Mais donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que avec ce type de connexion sur un téléphone portable, ça transforme véritablement, là encore et encore une fois, l'industrie de la téléphonie mobile. Parce que vous vous êtes bien rendu compte de la manière dont l'industrie de la téléphonie avait été transformée, ne serait-ce qu'avec l'arrivée des smartphones. Évidemment avec l'iPhone qui a initié tout ça, mais des smartphones qui deviennent des machines connectées en permanence. Eh bien, déjà aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et très impressionnant, mais le réseau reste quand même un tout petit peu erratique, quoi. C'est pas super rapide, on l'a pas tout le temps connecté, etc. Ça me fait penser au début des connexions Internet en France, quand on était encore avec le modem sur le téléphone et le machin qui fait le bruit, etc. Et à partir du moment où l'ADSL est arrivé pour tout le monde, ça a transformé complètement la nature même d'Internet. Et ben, imaginons ce type d'étape dans la téléphonie mobile, ça peut vraiment avoir une influence énorme sur la manière dont on imagine...
Surtout que là, on est à un moment clé du développement de l'Internet mobile et que le réseau 3G, comme il est actuellement en France... Il n'a pas vraiment été pensé ni prévu pour une telle utilisation. C'est clair que c'est l'iPhone qui l'a initié. Ça représente combien de pourcents du trafic Internet mobile? C'est quoi? C'est 50%? Je me rappelle, je crois que c'était les chiffres qui sont tombés il y a 2-3 mois. J'en avais parlé dans un de mes podcasts. C'est 50% du trafic Internet mobile, c'est l'iPhone. Parce que justement, il était le seul à arriver avec un navigateur qui faisait les choses correctement. Là, maintenant, on a Android qui le rattrape. On va certainement avoir Windows Mobile 7 qui va faire quasiment la même chose. Donc, on va avoir tous les smartphones qui se vendent bien mieux que les portables classiques. Donc, ce qui fait que, là où je veux en venir, c'est que actuellement, les réseaux, ils n'avaient pas été conçus à la base pour... Ah, je crois qu'on a eu un problème de son.
Non, moi je t'entends toujours.
Non, regarde bien Skype, on a Frenchpin qui s'est barré.
Oui, mais ça c'est pas grave, moi je suis toujours là.
D'accord, ok. ce qui fait que au moment où on est là, bah, les gens qui vont réfléchir au réseau 4G, ils vont pas se dire oui, on va juste passer un petit peu de data ou vendre des offres visioconférence. Ils vont se dire on va avoir des millions de personnes qui vont être constamment et de plus en plus connectées en version mobile. Ce qui fait qu'on va avoir des offres.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Différente, un réseau, un maillage différent, tout va être pensé à la base pour ça.
Exactement. Et ça va enfin bon, on verra, hein, comme tu le disais, la 3G, c'est pas non plus pour tout de suite, quoi.
Voilà. Et au moins, ça annonce du bon, quoi.
Oui, oui, exactement. Autre chose, c'est toi qui as mis la news sur Android qui rattrape l'iPhone.
Ah bah oui, bah justement, bah ça, c'est un très parce bon que, complément.
Parce que moi, j'arrive pas à y croire. Hein. C'est selon. Enfin, vas-y, bah prends le.
Non mais je t'en prie, c'est tout en anglais, donc j'ai lu le truc, mais je.
Bah en fait, selon les dernières informations qui indiquent.
Bon, c'est une société de publicité, donc toujours à prendre avec des pincettes.
Oui, non, c'est sûr, mais ils indiquent que justement les ordinateurs, le trafic internet qui vient des téléphones mobiles est aujourd'hui aussi élevé avec les téléphones Android qu'avec les téléphones Apple. Et c'est assez surprenant parce que des téléphones Android, il s'en est vendu beaucoup moins que des Apple. Donc j'avoue que je comprends pas exactement les chiffres, quoi. Parce qu'ils parlent que des États-Unis. Quand on prend dans le monde entier, iPhone, ouais. L'iPhone est bien sûr beaucoup plus présent.
Ouais, mais Android l'a quand même rattrapé de moitié, tu vois, de octobre 2008 à actuellement. Il est déjà à la moitié.
Ouais.
C'est déjà pas mal. Quand tu vois tous les autres qui se cassent la gueule, bon, ça, c'est normal. Mais quand tu. Comme tu le dis, quand tu regardes juste le marché des États-Unis, tu vois que Android a rattrapé l'iPhone. Vu la, comment dire, faudrait demander à Jeff, soit Jeff, soit Cédric. Mais quand tu vois les gens qui ont des Nexus One, par exemple en France, à chaque fois que j'ai vu un Nexus One, c'était un geek, c'était une personne qui était constamment connectée dessus.
Oui, on est d'accord. Oui.
Donc après, est-ce qu'aux États-Unis c'est la même chose et que effectivement la cible même des Motorola Droid, on le voit un petit peu dans les pubs, hein, c'est le Motorola Droid ou les autres portables sous Android, est-ce que c'est vraiment les gens, les geeks qui sont hyper connectés, qui font que ça? C'est peut-être ça qui fait que.
Ouais, c'est possible.
Mais en tout cas, voilà, ça rapproche. Bah, d'une, c'est une bonne nouvelle parce que l'iPhone n'est plus tout seul. Tu vas voir qu'ils vont peut-être enfin nous sortir le multitâche.
Ah ben ça risque d'arriver à un moment, oui.
Mais c'est aussi, ça va être très intéressant de voir à partir de là, bon bah sur le marché US, Android est quasiment au même point que l'iPhone en termes de nombre de personnes qui surfent sur Internet. Qu'est-ce que va nous faire Windows Mobile 7 quand il va sortir? Est-ce qu'on va le voir rebondir? Et justement, ça on va dire, ça confirme un peu ma théorie que maintenant, les gens, quand ils vont faire des réseaux mobiles, ils vont un petit peu penser, ils vont plus penser en voix, ils vont vraiment penser en data.
Oui, ça c'est certain, oui, effectivement. Voilà. Bon, allez, cette histoire est un petit peu obscure, donc passons à quelque chose de plus français et de plus intéressant, avec le fameux hacker de Twitter qui s'est fait arrêter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais...
Il a fait pas mal de choses hein, avant de se faire arrêter.
Oui. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous en avait parlé en fait il y a quelques mois de ça. C'était un hacker qui avait réussi à pirater le système de Twitter qui avait eu accès à toutes les informations de Twitter, mais toutes sans exception, quoi. Et c'est...
Que Corben avait dévoilé sur son site, si je me rappelle bien.
Oui, exactement. Et c'était quelque chose quand même d'assez fort, parce que...
Le retour de l'écho.
C'était quelque chose d'assez incroyable parce que Twitter était un site qui avait énormément de force, enfin énormément de potentiel, et on serait dit qu'ils avaient une sécurité un petit peu plus forte que ça parce que lui, il a réussi à rentrer dans Twitter sans connaissance informatique poussée. C'était même pas un informaticien qui avait une formation d'informaticien, c'était un autodidacte. Il avait réussi à avoir les codes en faisant des petites bidouilles complètement sociales, en fait, ce qu'on appelle du social engineering. engineering, c'est-à-dire en obtenant les réponses à d'autres questions qui lui permettaient d'accéder à tel compte, qui lui donnait le mot de passe qui lui permettait d'accéder à un autre compte, mais il n'est pas passé par les tripes de l'ordinateur, quoi. Il n'est pas plongé dans le code, il n'a pas fait de trucs qui exploitent les failles d'un site. Bref. Il avait eu toutes les informations de Twitter, il s'était baladé sur les comptes de Barack Obama et d'autres personnalités, et il avait révélé donc ses documents sur la toile, notamment en France et aux États-Unis avec le site TechCrunch, et ça avait plongé Twitter dans un embarras vraiment palpable. Et ben ce brave jeune homme a été arrêté.
Qui faisait ça tout seul au fond de sa chambre.
Voilà, exactement.
Il a été arrêté et il risque 2 ans d'emprisonnement. Voilà.
Alors, c'était un Auvergnat de 25 ans.
Ouais. Il est encore vivant. Hein.
Oui, bien sûr. et il avait hacké quand même pas mal de
choses.
Plein
de sociétés. Mais... En plus, ouais. Il n'a pas fait que Twitter, Nokia, Microsoft, Dell, encore, plein de grosses sociétés. Puis visiblement, toujours comme tu dis, avec des petites techniques sociales. Ouais. Quoi. Donc... la date de naissance de machin, bah, hop, c'est bon, tu as accès à son truc. Enfin, voilà.
Ouais, et donc c'était le résultat d'une enquête jointe entre la France et les États-Unis. Et il va être jugé en France, bien sûr, et il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. À mon sens, alors il faut qu'il soit arrêté, bien sûr, parce que nous on prend ça un petit peu à la rigolade, c'est un hacker, c'est bien drôle, etc. C'est pas si drôle que ça, quoi. C'est quelque chose de très sérieux et le hacking, il faut quand même s'en occuper quand c'est ce, parce que là il se trouve qu'il était sympa, mais imaginez qu'on pirate votre compte bancaire, forcément ça va pas vous faire drôle.
Ouais, parce que surtout le mec, il avait accès à un nombre assez impressionnant de comptes PayPal ou de cartes bleues de chez Twitter. Voilà, ça peut mettre dans l'embarras des dizaines de personnes, des centaines, exactement. Dans certains cas des millions quand t'as la Deutsche Bank qui perd je sais pas combien de millions de comptes clients dans la nature.
c'est vraiment
des choses super importantes, surtout qui est autodidacte, qui sait bien utiliser Internet et qui fait juste ça en répondant à 3-4 questions, des trucs sociaux comme tu dis. Hein.
Alors le truc quand même que j'aimerais noter, c'est que il y a une différence avec un hacker véritablement néfaste, c'est que lui, il s'est arrêté justement à la proof of concept, la preuve qu'il pouvait le faire. Il s'est baladé un petit peu et il n'a pas été jusqu'à justement diffuser ces informations.
C'est des gens qui veulent faire des exploits.
Voilà. Donc, à mon sens, ça serait quand même un petit peu... Je comprendrais qu'il aille en prison, mais je me dis, bon... quelque chose de... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait lui taper sur le poignet, tu vois, sur la main... pour lui dire que c'est pas bien, sans quand même l'envoyer en prison, parce qu'il aurait pu faire tellement de mal et qu'il l'a pas fait, pour moi, c'est quelque chose de pas aussi répréhensible qu'un véritable, tu vois, un véritable hack. Comme le dit notre Cameron, d'ailleurs, je suis bête, tout simplement, une peine en sursis, 1 an de prison en sursis ou 2 ans de prison en sursis, ce que c'est, et il se tient à carreau. Et d'ailleurs, il est à peu près certain que une fois qu'il aura fini, ou même dès aujourd'hui, il y a des sociétés de sécurité sur Internet qui vont aller le voir et qui vont l'employer
ça, ou lui faire
des offres en consultant, parce que quelqu'un qui sait casser ce genre de système, c'est forcément sécuriser les systèmes un petit peu mieux, quoi.
On lui souhaite que ça.
Exactement. encore une chose un petit peu marrante et un petit peu mignonne, c'est l'histoire de Opera, ce fameux navigateur internet qui a soumis qui a envoyé son
application. Il y a même un concours si vous voulez gagner de l'argent.
Alors bah tiens, puisque c'est une histoire iPhone, raconte-nous un petit peu de quoi il s'agit.
C'est juste Opera qui a soumis la version de son navigateur internet sur iPhone, et donc on attend de voir si des petits lutins chez Apple, ils vont la valider. Voilà. Exactement. Est-ce qu'ils vont répondre de manière totalement narcissique ? Non, ça duplique des fonctionnalités déjà présentes, on le met pas.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tellement drôle parce que il est évident que selon la tradition d'Apple, ils vont jamais accepter qu'un autre navigateur internet soit présent sur leur
appareil. Ça, ça leur mettrait tellement une mauvaise image de marque que, à mon avis, ils vont le laisser en attente de validation durant 4 mois, de voir comment réagissent les gens. C'est ce qu'ils vont faire, enfin, quasiment sûr. Mais c'est quelque chose de très intéressant, c'est la manière dont fonctionne Opera sur iPhone.
Parce que quand tu le compares aux navigations Safari iPhone et Opera Mini sur iPhone, Opera peut être jusqu'à 10 fois plus rapide. Mmh.
Dans l'affichage des pages. Il permet de faire des choses du genre... Bah, l'affichage des pages est plus rapide. Ils ont une technologie de compression spécifique qui fait que les pages s'affichent plus vite. Ils ont aussi le fait d'avoir plusieurs onglets ouverts en même temps, qui se chargent en même temps, ce qui est merveilleux. Enfin, tout un tas de fonctionnalités qui sont véritablement avancées par rapport au navigateur d'Apple.
Ils sont très très en avance. Pour ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne, c'est tout con. Ils ont vraiment une idée toute bête en plus. C'est qu'aujourd'hui, tu prends ton iPhone et tu tapes frenchpin.com. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton Safari mobile, il va récupérer toutes les images, il va récupérer tous les fichiers qui composent ta page et il va devoir lui-même effectuer plein de calculs pour te les afficher sur un tout petit écran. Et tous ces calculs, bah, ça consomme de la batterie, ça le fait ramer, ça doit charger dans la... Enfin voilà, ça, c'est une opération de travail assez conséquente pour un téléphone portable ou un smartphone. Bah, qu'est-ce qui se passe sur Opera Mini quand tu tapes frenchpin.com? C'est les serveurs chez Opera qui vont récupérer la page, qui vont s'occuper de tous les calculs, de compresser les photos à la taille de ton écran et qui vont les rebalancer. Ce qui fait que ta page, au lieu de peser un certain poids, elle va en peser 10 fois moins. Donc d'une, ça va charger plus rapidement, ça va consommer moins de batterie. Et cette idée de conception, elle est vraiment pas bête et je trouve ça vraiment super efficace.
Bah, espérons que Apple pique toutes ces idées et les intègre dans prochaine version.
ils vont laisser en attente Opera Mini durant 4 mois, ils vont le valider et une journée après, ils vont sortir Safari avec la même technologie.
Ouais, moi, je dirais même qu'ils vont sortir Safari avec la même technologie et une journée après, ils vont valider Opera, le jour où tout le monde s'en foutra, quoi.
Il y a Nokia qui a racheté un navigateur qui s'appelle Novara qui fait exactement la même chose parce qu'ils comptent faire la même chose dans leur navigateur pour Symbian. Oui. Voilà, pour ceux que ça intéresse.
Il y a dans la chatroom Jim Zero Profit dit si Opera c'était si bien il serait devant Firefox.
Le dire aussi quand Firefox s'appelait Firebird et qu'Internet Explorer trônait le marché, quoi.
C'est vrai, mais surtout là on parle de la version mobile du navigateur et la version mobile est bien différente et en l'occurrence sur les appareils mobiles il n'y a pas énormément de navigateurs différents, en tout cas sur iPhone il n'y en a qu'un seul et c'est véritablement supérieur au navigateur de l'iPhone, quoi. Donc, en l'occurrence, moi, je suis pas un fan d'Opera sur l'ordinateur de bureau, mais sur l'iPhone, il a l'air très très bien.
Ah, surtout si le truc il te charge les pages 5 à 10 fois plus rapidement, que ça consomme moins de batterie, que tu peux ouvrir autant d'onglets que tu veux qu'il charge. Bah, en fait, il peut te les charger en même temps, vu que c'est les serveurs qui font tout.
Exactement. Ouais.
C'est du cloud. Tu nous entends bien. Hein, c'est du cloud.
Yann,
tu nous entends? Bon. C'est le serveur qui te charge ta page.
Allez, on va passer à quelque chose d'encore plus excitant et de très décevant aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais, non, mais je faisais juste la personne patiente.
Il n'y a plus d'iPad. Ça y est, la sortie a été décalée de 2 semaines. Apple sombre. Non, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une news qui a été répétée par un peu tout le monde de manière erroné en disant que Apple avait décalé la sortie de l'iPad d'une semaine. En fait, c'est pas tout à fait ça. Comme vous le savez, l'iPad doit sortir à la fin de la semaine, donc le 3 avril. Et c'est pas tout à fait un décalage qui s'est opéré. C'est que il y a eu tellement de pré-réservations, entre 300 000 et 500 000 selon les différentes estimations. Donc il y a eu tellement de pré-réservations qu'ils ne peuvent plus fournir à la date de sortie pour les prochaines pré-réservations. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous réservez un iPad aux États-Unis, il ne pourra être livré qu'une semaine après la sortie. Mais par contre, tous ceux qui ont précommandé avant auront effectivement leur iPad livré le jour de la sortie comme prévu. Donc voilà, c'était une information intéressante qui prouve que l'iPad, en tout cas au lancement, sera un succès et ne sera pas un pétard mouillé. Alors, ce qui va se passer après, on ne sait pas, chacun a son opinion là-dessus. Mais au lancement même, l'iPad est déjà un succès, ce qui n'est pas si surprenant que ça, mais il y avait des gens qui en doutaient, donc... Et d'ailleurs, on commence à voir un petit peu, on en parlait la dernière fois, mais les possibilités qui commencent à s'ouvrir dans différents domaines avec un iPad, c'est vraiment le genre de... On va dire que je suis un fanboy encore et Dieu sait que c'est pas
le moment, du moment que tu vas prendre position, tu seras un fanboy pour quelqu'un. Donc vas-y.
C'est sûr, c'est sûr. Mais plus ça va, plus je commence à imaginer des manières d'interagir avec l'iPad qui me séduisent. Tu vois, l'idée, par exemple, d'avoir ta main sur l'écran et de pouvoir bouger avec tes doigts, enfin toucher avec tes doigts ton interface et pouvoir faire sur l'interface ce que tu veux y faire avec ta main. Enfin, avec l'iPhone, finalement, c'est un doigt, voire deux. Là, tu peux avoir tes deux mains dessus, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais ça rend quelque chose, ça donne quelque chose de beaucoup plus.
C'est pour ça que le tactile va remplacer ou arriver dans plein d'endroits ou sur plein d'objets qu'on utilise actuellement tous les jours et que ça va créer des interactions. Je faisais le test, pour ceux qui me suivent dans mes podcasts, d'un écran blanc géant tactile. Je sais pas si t'as vu ce podcast.
Oui, tout à fait, oui. Tu parles en fait d'un écran classique, quoi.
C'est un tableau blanc Velleda, sauf qu'il était tactile avec un vidéoprojecteur et des capteurs. Mais ça, c'est voilà, du moment il était tactile, j'ai lancé Cool Iris. Vous savez, c'est cette petite extension pour navigateur qui vous permet d'afficher en 3D des images ou de les rechercher sur Google.
On en avait parlé dans Upload.
Voilà. Donc c'est un truc sympa sur l'ordi parce que tu peux taper une recherche sur Google, ça te les affiche en 3D, tout ça. Ou même j'ai lancé Google Earth sur cet écran. Le fait de pouvoir toucher quelque chose d'immatériel le rend matériel. Et c'est ça qui fait que la même chose, le fait d'avoir devant son ordinateur, d'avoir d'avoir une souris qui va jouer l'interface de communication entre toi et ton ordinateur, et d'être en face de ton ordinateur ou d'un écran tactile et de toucher ce qui est immatériel, change complètement la manière d'appréhender les technologies. Ouais. C'est-à-dire que tu mets une personne devant un écran qui est tactile. C'est totalement intuitif de prendre un objet, de rester appuyé pour le faire déplacer comme si tu le faisais dans la réalité. Si tu veux prendre un truc sur une table et le déplacer, un papier, t'es obligé de rester appuyé et de glisser. Donc en fait, ça va encore amener la technologie ou toutes ces technologies vont encore séduire ou arriver chez des gens qui étaient encore réfractaires ou qui n'utilisaient pas parce que ce qui est immatériel devient palpable. Tu touches l'information et c'est ça, tu prends le contrôle de l'information.
Et en plus de ça, il y a une confirmation de ce dont on se doutait, c'est-à-dire que ce type d'interface et de machine ouvre des possibilités extrêmement séduisantes pour des applications qu'on connaît déjà, que ce soit des magazines, des jeux ou des logiciels divers. Les démos qu'on a, parce que les développeurs ont déjà des prototypes ou alors des émulateurs, donc on commence à voir des vidéos de ce qu'on peut faire avec ce type de machine. Les démos sont vraiment, vraiment séduisantes, quoi. Vraiment séduisantes, donc...
Bon. Ça annonce que du bon, et puis en plus, si on peut avoir comme exactement... Enfin, on risque d'avoir la même chose que sur le marché de la téléphonie mobile, c'est-à-dire qu'au final, on va se retrouver avec une iPad d'Apple, on va se retrouver avec une tablette sous Android de Google ouverte, open source, et on va avoir une tablette, on va avoir des tablettes de marque générique avec un système Microsoft.
Ouais, donc il y aura le choix et de la concurrence et que du bon, quoi. Voilà. Dernière note sur l'iPad qui sort donc le 3 comme on disait. Jérôme de NoWatch dans la chatroom fait référence à un prix qui aurait été révélé de 549 € pour la plus petite version, ce qui est l'équivalent de 399 aux États-Unis. Ce prix n'est pas confirmé. C'est un prix qui a été mis en ligne par un site allemand qui n'a aucune relation avec Apple et qui n'est pas du tout fiable. Donc
C'est comme la Fnac qui avait juste converti le prix américain pour le prix français.
Le prix n'a pas été annoncé. On ne sait pas combien ça va coûter. Donc, ne croyez pas ce que vous lisez à droite et à gauche. C'est que du sensationnalisme. On n'a aucune info pour le moment. Et à propos de Jérôme, vous savez que nous faisons l'émission Upload tous les deux lundis, enfin en alternance avec le Rendez-vous Tech. Eh bien, le prochain, qui aura lieu 3 jours seulement ou 2 jours seulement après la sortie de l'iPad, donnera lieu à une spéciale iPad puisque nous aurons avec nous Jeff, que vous connaissez bien dans cette émission.
Ah,
qui aura essayé l'iPad puisqu'il l'a précommandé le jour où il était possible de le précommander.
Ah bon, c'est étrange.
Donc, il va nous faire un test et une review en direct. Donc, si ça vous intéresse un tant soit peu, allez voir Upload la semaine prochaine. Enfin, pour vous donner la date précise, ça sera l'Upload du 5 avril. Et vous aurez les premières impressions en direct dans l'émission.
Et normalement, je suis dès qu'elle est disponible, les jours qui suivent la disponibilité en France, même si elle ne sera pas, comment dire, elle sera hors stock, je suis censé aussi faire un podcast vidéo là-dessus.
Ah, et qui aura l'iPad ?
Moi ?
Ah, tu le récupères toi aussi ?
Bah, normalement, oui.
Ah,
donc, abonnez-vous.
Dans la revue tech, donc vous aurez de tout.
Même si elle est hors stock partout, normalement, c'est censé être là.
D'accord, magnifique. Bon, bah, écoutez, on va passer quand même aux
rumeurs
et aux news rapides. J'essaye de lancer là.
Le jingle.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Donc, les rumeurs à la con. Non, arrête-toi.
Voilà. Ça, plus l'écho, c'était pas mal.
Il faut vraiment que je change d'ordinateur, moi. Donc, les rumeurs à la con, on a plusieurs petites choses dont on va vous parler. D'abord, l'arrivée possible d'un bouton universel j'aime pour Facebook sur tout Internet. C'est-à-dire que Facebook est en train de réfléchir à quelque chose de très intelligent qui serait la possibilité de mettre en très facilement sur n'importe quel site un lien qui, en cliquant dessus, un petit bouton qui vous ferait dire « j'aime » sur votre compte Facebook. Alors, il y a déjà ce genre de choses qui sont faites par des sociétés externes, mais Facebook est en train de s'y intéresser directement. Et c'est une idée, évidemment, enfin, c'est dans l'air du temps, donc c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est quelque chose de très important parce que ça permet facilement de lier Facebook, qui est déjà énorme, à tout le reste d'Internet. Et ça sera immédiatement inclus sur tous les sites du monde qui veulent avoir un petit peu de visibilité parce que c'est un moyen
c'est
de partager.
C'est surtout Facebook va savoir ce que tu aimes.
Exactement, aussi. J'y avais pas pensé, mais je le sais.
Elle est là, le truc. C'est qu'une fois qu'ils sont partout, bah, y a déjà le Facebook Connect, donc, qui est déjà très utilisé et incroyablement pratique pour les développeurs. Permettre aux gens de se connecter à ton site avec leurs identifiants Facebook et tu peux récupérer leurs infos. C'est quelque chose de fantastique, aussi bien pour le développeur c'est simple comme bonjour, et c'est excellent pour le développeur qui peut récupérer plein d'infos. Mais en plus, là, le site va juste ajouter ça comme fonctionnalité supplémentaire, mais Facebook, derrière, ce qu'il récupère, c'est l'ensemble des données pour savoir ce que t'aimes. Et donc, publicité ciblée.
Autre chose.
La boucle est bouclée.
Exactement. Une autre chose dont j'aimerais vous parler, c'est, vous connaissez Chatroulette, bien sûr, hein, ce site où on peut, converser avec des gens avec une webcam, donc son et vidéo, au hasard, c'est-à-dire qu'on se connecte, on clique converser et on est mis en face d'une autre personne au hasard dans le monde qui est connectée elle aussi. Alors évidemment, ça donne lieu à des rencontres un petit peu, surprenantes et parfois classées X, mais ça donne aussi lieu parfois à des choses assez marrantes. Et l'un des trucs qui m'a vraiment séduit, c'était cette expérience qu'a fait un jeune homme qui s'appelle Merton, qui a fait de l'improvisation au piano sur Chatroulette. C'est-à-dire qu'il...
Il a fait un concert.
Non. Alors, Merton, en fait, il a fait de l'improvisation. Il était tout seul dans sa chambre et il jouait au piano et il jouait en fonction de la personne qui arrivait sur Chatroulette. Donc, il voyait quelqu'un et il chantait en décrivant ce qu'il voyait ou en répondant aux questions. C'est quelque chose de vraiment charmant. Et ça a fait le tour d'Internet et c'est arrivé partout, jusqu'aux oreilles de Ben Folds, qui est un artiste que les gens connaissent. Évidemment, le groupe Ben Folds 5 était assez connu dans les années 90. Et donc, ce jeune homme Ben Folds était en train de faire un concert, et tout à coup, il s'est arrêté, il s'est mis à côté de son piano, il a sorti un ordinateur avec la foule, hein, c'était un concert où il y avait 2000 ou 3000 personnes, il s'est mis à côté de l'ordinateur, et il s'est mis à faire la même chose. Donc, vous imaginez les gens qui arrivent sur Chatroulette, qui voient de l'autre côté un type sur un piano avec une foule de 2000 personnes derrière, qui hurlent quand ils sont en train d'arriver sur l'écran, et donc il leur parle, il se met à jouer en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont en train de faire, enfin... C'est difficile à décrire, mais allez voir le lien. D'ailleurs, je vais le mettre en lien sur la chatroom si quelqu'un ne l'a pas déjà fait. Ah bah ça y est, c'est déjà fait.
D'ailleurs, si vous voulez vous marrer, vous allez sur YouTube et vous tapez dans la recherche chatroulette. Il y a des, les vidéos qui sont prises, c'est les meilleurs moments en fait. C'est toutes les personnes qui ont fait des performances comme ça, à faire des concerts devant chatroulette, à faire des improvisations devant chatroulette ou des choses vraiment drôles, sont sur YouTube. Vous tapez chatroulette sur YouTube, vous allez pas être déçu.
Exactement. Donc chatroulette ou alors Merton, M-E-R-T-O-N et chatroulette, ou alors Ben Folds et chatroulette. Vous allez voir, c'est vraiment. Enfin, particulièrement, moi, celle de Ben Folds, je l'ai trouvée magnifique. Quoi. Voilà. Écoutez, on va passer à la fin de l'émission. Il y a quelques autres choses dont j'aurais voulu parler, mais on n'a plus vraiment le temps. Donc, on va passer à la statosphère de Guillaume. Tu l'attendais, hein ?
Ah bah oui, attends.
Et justement, il va nous parler de Twitter et Facebook, dont ça nous plaît particulièrement.
Bonjour à tous. Facebook est une des seules entreprises actuelles capables de nous donner le vertige avec ses statistiques de fréquentation. En effet, ça y est, on se doutait que ça arriverait. Eatwise a annoncé que Facebook dépasse Google en termes d'audience aux États-Unis. Facebook s'était déjà retrouvé ponctuellement devant Google, notamment à Noël ou au jour de l'an, mais c'est la première fois que le réseau social devance le moteur de recherche pendant plus d'une semaine, et ce, en plein mois de mars. Il y a un an, les internautes passaient 5700 ans par jour sur Facebook. Il y a 6 mois, je vous annonçais qu'ils y passaient 11 400 ans. Aujourd'hui, en temps cumulé, les utilisateurs passent 42 000 années par jour sur Facebook. Il faut dire que le réseau social américain atteint désormais les 400 millions d'utilisateurs actifs. À noter également qu'ils sont plus d'un quart à se connecter depuis leur téléphone portable et qu'ils se montrent deux fois plus actifs que les autres utilisateurs. En France, aussi surprenant que cela puisse être, c'est encore Copain d'avant qui reste en tête des réseaux sociaux, puisqu'un internaute français sur deux y possède un compte. Mais ils ne sont encore qu'un tiers à être inscrits sur Facebook et 5% sur Twitter. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci Copain Guillaume. d'avant, mais barrez-vous de ce site.
C'est sûr que Copain d'avant, c'est un petit peu passé.
C'est un petit peu le Facebook des années 90, quoi. C'est terminé. C'est... Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est des stats qui donnent un petit peu le tournis, quoi. Très vite, si vous en voulez d'autres, comme d'habitude, vous le savez, c'est statosphere.fr. Vous allez là-bas et vous aurez toutes sortes de stats intéressantes de notre ami Guillaume. Et d'ailleurs, tu sais, quand j'ai entendu ça, bon non, c'est pas à cette occasion, mais j'ai ouvert ma page publique Facebook il y a 2 jours à peine, parce que j'ai longtemps hésité en fait. Facebook, je m'en sers surtout pour une utilisation privée, quoi. C'est ma famille, mes amis d'enfance, tout ça.
Et pareil, j'ai ouvert une page publique.
Ouais, bah exactement. Donc j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, tu vois, c'est les pages de fans, ça fait con. Je mets une page de fans de Patrick. C'est un petit.
Et
peu
c'est surtout, tu te rends compte que tous tes amis ont à un moment vu Patrick Béja et fan de Patrick Béja.
C'est non, super narcissique. Je suis pas fan de ma page de fans.
Bah t'es obligé vu que t'es l'administrateur.
Mais non, mais je suis pas. Non, 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 t'es pas obligé.
Ah, mais bon, tu n'es pas fan de toi-même.
Non, non, je suis pas. Non, bah moi, je m'aime pas tellement en fait. Hein. mais tu vois, en fait, le truc c'est que je recevais plein de demandes d'amis sur mon site privé sur Facebook, donc finalement je me suis dit bon bah allez je vais faire le truc public, et en plus je me suis rendu compte que avec les changements que Facebook a fait depuis quelques mois, je l'utilise de plus en plus, quoi. Avant, sinon, tu vois, il y a un an je l'utilisais pas beaucoup, aujourd'hui je l'utilise vraiment, j'en ai une vraie utilisation. Et autant j'adore Twitter, hein, on le sait, on l'a assez répété, je suis vraiment fan de Twitter, autant avec Facebook, aujourd'hui, il y a une vraie valeur différente de la valeur qu'apporte Twitter. Je veux dire, il y a plus de conversations, c'est plus communautaire. Même si on discute un petit peu sur Twitter, c'est quand même un petit peu dans un sens, quoi. Mais avec Facebook, tu as une vraie interaction.
Elle est beaucoup plus longue dans la durée. Puis j'ai remarqué que je ne poste pas la même chose Et pas de la même façon sur Twitter que sur Facebook.
Exactement, ouais. Ouais, ouais, exactement. Donc, bah, et, si vous voulez venir sur Facebook, bah, c'est pas compliqué, c'est facebook.com/notepatrick. C'est comme voilà. Sur Twitter, c'est notepatrick sur Facebook et notepatrick sur Twitter. Donc, rejoignez-moi sur Facebook, et comme ça, on sera une super communauté joyeuse et heureuse d'être ensemble. C'est quoi ton Facebook, toi, Mathieu?
Je ne sais pas, il faut chercher Mathieu Blanco, et puis il y a une page. D'accord. Il y a une page.
Et quoi d'autre ? Donc, on a quand même d'autres choses dont on veut parler ici. Et je voulais vous parler des infos qu'on a eues, enfin des infos, des retours par mail et des commentaires. Parce que, comme je vous le disais au début de l'émission, j'ai eu un retour assez fort sur un truc que je disais la dernière fois quand je parlais de l'Opsi et de Adopi. Notamment de notre ami Cédric qui nous fait les jingles, qui a été outré par ce que j'ai dit. Je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui ont mal compris ce que je disais, donc j'aimerais préciser la chose, parce qu'on m'a envoyé des emails pour me dire que j'avais tort parce que je disais une chose, et d'autres emails pour me dire que j'avais tort parce que je disais son contraire.
Non, mais donc, ça, c'est l'écho qui fait ça.
C'est possible, c'est possible, tu vois, je me parle à moi-même, donc je me réponds. Mais bon, en fait, quand je parlais de l'opsie, j'ai pris l'exemple de la pédophilie. Et je disais en deux mots, quoi, c'est vrai que... quand on dit, enfin, je ne parlais pas de l'OPSI spécifiquement, je parlais de la question « Internet est-il un droit fondamental ?» et faut-il que l'État régule Internet ? Et à ce moment, je disais « Il est facile de dire non, 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 surtout l'État ne doit toucher à rien sur Internet et ne doit pas du tout réguler Internet. » Mais, ce que je disais la dernière fois, c'était « Il y a certains cas où ça doit être nécessaire, comme par exemple, je suis passé très rapidement, j'ai dit comme par exemple la pédophilie. » Et c'est vrai que là, ça a touché un nerf des geeks et des technophiles que nous sommes, parce que la pédophilie est souvent prise en exemple comme le truc, la cause pour laquelle il faut tout réguler et tout filtrer et tout censurer sur Internet, alors que concrètement, c'est vrai, la pédophilie est quasiment... Enfin, 99,999% des internautes ne verront jamais de pédophilie sur Internet. Je veux dire, personnellement, moi, j'ai jamais vu de ce genre de choses. Mais... ce que je voulais dire, c'était, j'avais eu l'impression que j'étais quand même clair, c'est que il y a sur Internet des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, quand on parle de la question philosophique, est-ce que il y a certaines choses dans lesquelles l'État doit intervenir, même sur Internet, moi, ce que je veux dire, c'est que imaginons un instant que la pédophilie ne soit pas du tout régulée sur Internet. C'est-à-dire que l'Internet soit une sorte de zone qui ne soit pas soumise à la loi. Des différents pays, et que tout soit autorisé, ou en tout cas on n'ait pas le droit de réguler ou d'engager des poursuites envers des gens qui feront des choses sur Internet. Et ben là, ça peut amener à des dérives. Alors on parle de pédophilie, mais on peut parler, je sais pas, d'incitation à la haine raciale, ou de cruauté envers les animaux, ou Dieu sait quoi d'autre. Et dans ce genre de cas, tu vois, moi ce que je voulais dire, c'est que la loi qui s'applique dans un pays doit pouvoir s'appliquer également sur Internet, dans le sens où, si par exemple un fournisseur d'accès héberge une page qui incite à la haine raciale, c'est pas parce qu'il le fait sur Internet qu'on va pas aller engager des poursuites envers la personne en question, et on va engager une procédure légale en bonne et due forme, et demander à un juge de demander le nom de la personne qui a mis en place ce site au fournisseur d'accès ou à l'hébergeur, etc. Et si on respecte la procédure, et ben dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de souci. Au contraire, ça doit être observé.
Donc, mais j'ai eu les mêmes sortes de discussions sur un truc qui ne concernait pas la pédophilie ou des sujets aussi graves. Mais quand j'ai une chose tout bête, quand j'ai ouvert mon blog et j'ai dit je vais modérer les commentaires, je me suis chopé le même style de mail ou de réponse en me disant il y a vraiment des gens qui pensent que Internet c'est un endroit où t'as le droit de tout faire, où rien n'est régulé, qui est totalement libre, où il n'y a pas de propriété en fait.
Oui.
Voilà, il n'y a pas de propriété, tu peux faire ce que tu veux, mais ça c'est, comment dire, c'est jusqu'à que les gens aient un problème. Je veux dire, si un jour ils ont un problème sur internet avec un truc qu'ils ont acheté ou ils arrivent pas à accéder à quelque chose, ou ils se passent, là à partir de là c'est les premiers à demander des règles.
Ouais, c'est sûr,
c'est surtout ça quoi. Donc c'est une utopie de vouloir dire ouais. Internet c'est une place où t'as le droit. Je l'ai rappelé lors d'une discussion assez intéressante. Internet c'est quoi? C'est des ordinateurs qui appartiennent à des gens dans des pays dans le monde qui sont reliés avec des câbles. Voilà.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
Concrètement, c'est ça. Donc, à partir de là...
C'est sûr, et moi je pense surtout que ça peut malheureusement desservir la cause, entre guillemets, avec un C majuscule, des technophiles et des geeks, parce que si on crie au loup, en fait, sans véritablement argumenter ce qu'on dit, on risque de se discréditer, tu vois, parce que, en l'occurrence, c'est vrai que des choses comme la pédophilie sont invoquées à tort et à travers par des imbéciles qui ne comprennent rien à Internet, mais ça ne veut pas dire qu'il faut...
Généralement, la pédophilie précède le point Godwin.
Oui, qui est le point Godwin, qui est celui
tu fais un rapport avec la guerre ou avec le nazisme.
Avec le nazisme, oui. Mais si tu veux, c'est effectivement... c'est comme... La pédophilie est effectivement ce rapport qu'on fait souvent. La pédophilie, c'est un petit peu à Internet ce que le terrorisme est à la sécurité. C'est-à-dire qu'on invoque le terrorisme pour faire passer des lois scandaleuses. Effectivement, c'est le cas. La pédophilie, souvent, est invoquée pour faire passer des lois scandaleuses. Mais ça ne veut pas dire que la pédophilie doit être autorisée de la même manière que ça ne veut pas dire que le terrorisme doit être autorisé. Si il y a une page sur Internet ou... Enfin bon, bref, on comprend ce que j'ai dit, je ne vais pas
Il faut réguler le terrorisme. On a bien compris.
Bon, donc voilà, je voulais faire la précision parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu et je pense que ça, s'il y a eu des réactions aussi vives, c'est sans doute que j'avais mal expliqué les choses ou que je m'étais mal exprimé, donc ça valait peut-être le coup de repréciser. Donc voilà, merci à tous ceux en tout cas qui se sont exprimés et qui nous ont contactés, parce que c'est toujours bon d'avoir une conversation. Ça, on en ressort toujours tous grandis. Et vous savez, ce qui peut aussi nous faire grandir, c'est le fait de laisser des commentaires sur iTunes. Donc, si vous avez 2 minutes à perdre,
t'as géré la transition.
On en est à 608 avis, donc classement.
608, je suis à la ramasse.
Sur iTunes. Non, mais attends, Geeking, ils en ont 900 et des bananes.
Je sais, mais.
Donc, moi, je dis, c'est scandaleux. Il ne faut pas que Geeking conserve cette première place honteuse. Donc, si vous avez 2 minutes à perdre, allez nous laisser un petit avis sur iTunes. Comme vous le savez, ça nous file un coup de main et ça nous donne plus de visibilité. Vous pouvez faire comme le voleur gardien de prison, dont je crois on avait déjà parlé, qui nous dit bravo. Le 29 mars 2010, il nous dit un podcast qui rend accessible l'actu web et technologique aux novices comme aux plus aguerris du genre. Encore un grand bravo à Patrick et ses excellents invités. Et je crois qu'il parle de toi, Mathieu.
Oui, je suis tout seul. Il n'y a qu'une seule personne derrière tout ça, il faut le savoir.
Donc voilà, merci aux voleurs gardiens de prison et à tous les autres qui ont décidé de nous laisser des commentaires sur iTunes. Si vous voulez faire comme eux, iTunes, le rendez-vous tech, c'est rapide et ça fait plaisir. Et comme je le disais là aussi en début d'émission, je vais prendre 2 minutes pour vous parler de No Watch et de nos initiatives et d'un des podcasts que j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, les podcasts de No Watch, mais on a décidé en fait de se filer des petits coups de main à la fin de chacune de nos émissions. Et
on va tous se cirer les pompes, vous allez voir.
Voilà, exactement. Donc, nowatch.fm, on réunit tout plein de podcasts qui sont un petit peu dans le même esprit, pas toujours sur les mêmes sujets, comme vous allez le comprendre, mais dans le même esprit de camaraderie, de culture du homemade. Donc, c'est pas vraiment TF1 ou France Inter, et on en est bien content d'être un petit peu moins polissé que ce genre d'émissions, qui ont certainement leur place, mais c'est pas nous. Et donc, on est tous réunis sur nowatch.fm, et pour les podcasts vidéo, c'est nowatch.fm. nowatch.tv. Vous savez qu'on a le compte Twitter nowatchfm sur Twitter. On a aussi facebook.com/nowatch. Donc ça fait des trucs. Si vous réussissez pas à nous suivre, c'est que vraiment vous le faites exprès. Hein. Là pour le coup, on est partout. Donc l'émission dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la toute dernière émission qui a rejoint nowatch.fm. C'est Season 1. Alors Season 1, c'est quoi ? C'est l'émission de Sophie que vous avez déjà vue sur Geeking si vous suivez celle-là, et Alex qui sont des grands spécialistes des séries télé en fait, et ils font une émission qui est super bien faite, un petit peu sérieuse mais en même temps assez rigolote, où ils ont des sujets, des débats de fond, des sujets qui explorent des choses un petit peu obscures des séries télé, comme les séries anglaises par exemple. Moi j'ai découvert certaines séries que je connaissais pas grâce à eux. Ils ont fait un dossier sur Dexter, qui est une série sur ce tueur en série justement, qui est pas vraiment méchant mais pas vraiment gentil non plus, qui est le dossier était extraordinaire. Donc si vous aimez les séries télé et que vous aimez les podcasts, et je sais que vous aimez les podcasts puisque vous nous écoutez, eh ben précipitez-vous sur nowatch.fm, vous trouverez le lien vers Season 1, et c'est vraiment un podcast super sympa qui vous permettra de vivre votre passion des séries télé, et ça c'est que du bonheur.
Toutes et les tu séries. Viens déjà faire plaisir à plein de personnes dans la chatroom qui nous disent « Ah oui, c'est vrai, super !» ou « Super, je viens de découvrir !» Donc vraiment, c'est génial.
Exactement. Donc Season 1 sur nowatch.fm, vous allez, et donc il y a Season 1 et d'autres sur nowatch.fm.
Voilà.
Et Mathieu, où est-ce que les gens peuvent aller pour trouver toi aussi tes podcasts, puisque c'est l'invasion des podcasts, il y en a partout.
Il y en a partout, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes, quand tu suis, quand tu es sur Twitter et que tu suis un peu tout ce monde, tous les jours ou tous les deux jours, t'en as un, quoi.
Exactement, ouais.
C'est une très bonne chose. Ils peuvent me retrouver sur iTunes, vous tapez la Revue Tech, ou alors vous allez sur mathieublanco.fr, ou encore plus simple, vous allez sur frenchpin.com dans les notes de l'émission. Il y aura tous les liens, Twitter, Facebook, la Revue Tech sur iTunes. La Revue Tech est disponible en 12 formats différents, en streaming.
Ouais, tu t'es lâché avec celle-là.
Ah là, impossible de passer à côté. YouTube, Vimeo, HD, iPhone, elle est déjà prévue pour l'iPad. Voilà.
Donc on vous a donné tout un tas de liens différents. Et effectivement, le plus simple, c'est que vous alliez sur le blog de l'émission, sur lrdv.fr ou frenchspin.com. Ou
alors, il y aura le lien des vidéos et tout.
Voilà, il y aura tous les liens et vous pourrez trouver tout ça grâce à Seredwin. Donc Florent qui nous met tout ça en ligne. Sur Twitter, vous pouvez nous retrouver. Moi, c'est NotePatrick. C'est pas compliqué, c'est la même chose partout. Et Mathieu, c'est Mathieu Blanco sur Twitter. Et hormis le podcast Upload que vous aurez la semaine prochaine avec les infos sur l'iPad, nous, on sera de retour avec Jeff et Yann le 12 avril pour une autre émission du Rendez-vous Tech. Et d'ici là, on vous souhaite de bonnes semaines et on vous fait des grosses bises.
À bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Et Swiki qui dit nowatch.fm, c'est le retour de l'URSS. Voilà, c'est la Fédération Générale, la mère patrie des podcasts français. Non, mais on rigole, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment notre idée. Bon, c'est pas vrai que c'est l'URSS, mais notre idée, c'est vraiment qu'on veut essayer de faire un point central où tous les podcasteurs de qualité se retrouvent pour que d'ici quelques temps, tu vois, tous les amateurs de podcasts se disent où est-ce que je vais aller pour voir une émission cool, qu'elle soit vidéo ou audio sur Internet. Eh ben, on va aller sur NoWatch et on aura tout ça directement, simplement.
Voilà, un podcast NoWatch est un podcast de qualité.
Voilà. Il faudrait faire un truc, tu sais, avec la
à la vieille voix,
les podcasts NoWatch, des podcasts de qualité.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.